Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. C'est Dieu qui me parle. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole vivante de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai pour toujours et à jamais transformé et changé de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous pose la question ce matin. Est-ce que vous êtes prêts pour le paradis? Est-ce que vous êtes prêts à aller au ciel? J'espère que la réponse est oui. Est-ce que vous savez le chemin?
Oui.
Vous savez que sans Jésus, vous ne pouvez pas aller, n'est-ce pas? Jésus est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Il n'y a pas un autre chemin. Il y a un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel on doit être sauvé. C'est le nom de Jésus. Donc, on ne peut pas entrer au ciel sans entrer par la porte, et Jésus est la porte. Mais quand je vous pose la question, êtes-vous prêt pour le paradis? C'est pas juste dans ce sens-là. Parce que on va lire notre texte dans quelques minutes, mais on sait que Jésus a enseigné à ses disciples de prier que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe au paradis? Qu'est-ce qui se passe au ciel? Qu'est-ce qui se passe dans la ville céleste? C'est des choses que nous sommes appelés à refléter ici sur la terre. La volonté, qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu fait au ciel, à Jérusalem céleste, ces mêmes choses sont supposées de se passer dans nos vies, même pendant notre séjour terrestre. Ce n'est pas nécessaire d'attendre le ciel pour goûter le ciel. Il y a certaines choses qu'on ne va jamais savoir, on ne va jamais goûter avant d'être rendu là. Hein? Moi, je ne vais pas savoir exactement qu'est-ce que c'est d'avoir un corps qui est immortel avant d'avoir un corps immortel. Je peux juste imaginer, n'est-ce pas? Je peux juste rêver, croire et avoir les petits avant-goûts de qu'est-ce que ça peut être dans la présence directe du Seigneur Jésus. On sait qu'on a sa présence avec nous, l'Esprit Saint est en nous, est avec nous, mais un jour, on va le voir face à face. N'est-ce pas merveilleux? Donc, il y a certaines choses que je peux imaginer marcher sur les rues d'or. Je peux imaginer voir les 12 portes de la ville. Je peux imaginer, mais avant de la voir, c'est comme quelqu'un qui fait un voyage quelque part. Il entend parler d'une place. Oh, c'est une belle place. Ah, tu devrais aller à la plage. Le sable est blanc et da-da-da. Et c'est merveilleux, mais c'est quelque chose d'entendre parler. C'est une autre chose de marcher dessus, hein? Moi, je ne suis pas vraiment amateur beaucoup des plages, etc. Mais, vous savez, dans l'esprit, c'est un peu la même chose. Il y a certaines choses qu'on peut entendre parler, on peut avoir une révélation, on peut avoir un avant-goût. C'est comme quelqu'un qui peut lire une brochure pour une agence de voyage et dire, bon, c'est une belle place, oh, je peux rêver d'y aller. Mais ça, c'est une chose, regarder la brochure, c'est une autre chose de sentir le sable entre vos orteils, n'est-ce pas? Si vous êtes quelqu'un qui aime cela. Mais, même chose, on lit la parole de Dieu, on peut lire les choses à propos de la ville céleste. Et ce matin, on va le faire. On va voir la description de notre cité à nous. On va voir quelle est l'atmosphère, qu'est-ce qui se passe, et on peut avoir un avant-goût. Mais c'est sûr, c'est officiel que, une fois rendu, ça va être une autre histoire, une autre dimension, une joie qu'on ne peut pas vraiment comprendre à 100% avant d'être rendu. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais ça, c'est un côté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout savoir, mais l'autre côté, c'est qu'on peut quand même goûter, on peut quand même avoir une révélation, et on peut quand même vivre dans la lumière de cette révélation ici sur la terre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vivre l'enfer en attendant le ciel. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Il y a des personnes qui ont cette impression, moi je vais vivre l'enfer en attendant le ciel. Non, que sa volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel. Et même si le monde autour de nous sont en train de vivre l'enfer, même si le monde qui connaît, les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ sont en train de souffrir d'une façon incroyable, on n'a pas besoin de subir les mêmes genres de souffrances. Est-ce qu'on va souffrir sur la terre? Oui, mais pas avec la même chose et pas de la même manière. Est-ce qu'on va avoir des moments difficiles, les tribulations sur la terre? Oui, absolument. Mais prenez joie, perdez pas courage, Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Donc voyez-vous, il y a une manière qu'on peut avoir les tribulations, les persécutions, les difficultés sans perdre l'espoir, sans être découragé, sans être déprimé, sans être vaincu, mais comme plus que vainqueur, on peut vivre et faire face à ces choses comme quelqu'un qui a déjà vaincu en Jésus-Christ. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc, la question, êtes-vous prêt pour le paradis? Parce qu'il y a certaines façons que vous allez vivre au ciel. Notre texte en Philippiens chapitre 3, verset 17, dit qu'il y en a plusieurs qui marchent un ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc on voit que les ennemis de Christ sont ceux qui ne vivent que pour le plaisir naturel. Ils mettent leur gloire en ce qui devrait être honteux pour eux et ils ne pensent qu'aux choses terrestres. Mais nous, notre cité à nous est dans les cieux. On va le dire ensemble. Notre cité à nous est dans les cieux. Amen. Et c'est une véritable ville. C'est une place réelle. C'est pas une théorie, une idée. C'est une véritable ville. Amen. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons, aussi comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Woo! Je ne sais pas si vous savez, mais quand Jean l'apôtre a vu Jésus glorifié, il ne faut pas oublier une chose, quand Jésus existait toujours avant la fondation du monde. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais quand Jésus est devenu homme, il a mis à côté sa gloire. Il est né comme un bébé, il a grandi comme un bébé. Il a marché sur la terre comme un homme et puis il a fait son ministère comme un homme au sein du Saint-Esprit. Mais quand même un homme mortel. Mais quand il fut ressuscité, il est revenu sur la terre pendant 40 jours, 40 nuits, parler avec ses disciples. Et puis, il a remonté au ciel. Mais là, on sait que Jésus est maintenant glorifié avec la gloire qu'il avait avant la fondation du monde. Et quand Jean, l'apôtre, l'a vu, il est tombé comme mort. On voit qu'il avait les yeux qui avaient comme les flammes de feu, les cheveux blancs, il rayonnait de gloire. Et nous serons transformés. Notre corps mortel va transformer pour être semblable au corps de sa gloire. Wow! Ouh, je peux juste imaginer qu'est-ce que ça va faire comme effet. Hein? Il y a des personnes qui aiment aller au parc d'attractions, faire les montagnes russes parce qu'ils aiment l'adrénaline et ils aiment le feeling que ça donne. Mais imaginez quand la puissance de Dieu va entrer dans votre corps pour vous transformer et tout d'un coup, vous êtes aussi glorieux que Jésus. Ça va être quelque chose, n'est-ce pas? Donc, ça c'est qu'est-ce qui s'en vient pour nous. Mais entre-temps, on marche par la foi, non pas par la vue. Hein? Nous marchons par la foi, non pas par la vue. On sait qu'actuellement, on est absent du Seigneur dans le sens que son corps glorifié est assis à la droite de Dieu et notre corps physique est ici sur la terre. Pourtant, dans l'esprit, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Des choses un peu intéressantes et difficiles pour l'intelligence humaine à capter, mais quand même la vérité, n'est-ce pas? Donc, on vit par la foi ici sur la terre, non par la vue. Je n'ai pas besoin de voir Jésus glorifié pour croire qu'il est glorifié. Je le sais dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de voir les choses transformées pour savoir que je serai transformé et que je suis déjà transformé dans mon homme intérieur. Mais il faut que la façon que je vis ici sur la terre soit conforme à sa volonté. Il faut que je mène une vie ici sur la terre qui est en harmonie avec la vie céleste. Et comment est-ce qu'on va faire cela? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire plusieurs descriptions, les choses que nous voyons au paradis, au ciel, dans la ville céleste, l'atmosphère, le contexte, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens font. Et au lieu juste de dire, ah oui, ça va être bon un jour d'être au ciel. Oh, j'ai hâte d'être au ciel. Oh, j'ai hâte de voir Jésus face à face. On va dire, oui, j'ai hâte de me rendre là-bas, mais entre-temps, qu'est-ce que je fais avec cette réalité? Si c'est comme ça au ciel, qu'est-ce que je devrais faire ici sur la terre pour avoir une vie qui est en harmonie avec le ciel? Vous me suivez ce matin? Et la première chose, que si vous voulez vraiment être prêt à vivre au paradis, vous ne voulez pas que ça soit trop un choc pour votre système, hein? Il faut qu'on commence à pratiquer. On va faire les répétitions. Comme on a dit dans la louange ce matin, on va se pratiquer pour se préparer pour le paradis dans la mesure du possible. Amen? Qu'est-ce qu'on fait premièrement? Numéro un, soumettez-vous à l'autorité de Jésus-Christ. Une chose qu'on remarque quand on voit les descriptions du ciel et la ville céleste, regardons Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et puis ça continue. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, la première chose qu'on remarque au ciel, c'est qu'il y a un trône au ciel. C'est pas l'anarchie. Hein? C'est pas une c'est une monarchie. Et en fait, ça c'est quelque chose d'intéressant, hein? Le royaume de Dieu, on a fait toute une série là-dessus une fois il y a quelques années. Le royaume de Dieu, c'est pas une démocratie. C'est pas comme les hommes pensent. Le royaume de Dieu, c'est une monarchie, c'est ça? Monarchie, pardon. C'est en fait une théocratie. Il y a une personne qui est en charge au ciel. Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Ce n'est pas l'anarchie non plus, dans le sens que tout le monde fait ce qu'il veut. Il y a de l'ordre, il y a une autorité suprême, quelqu'un qui est assis sur le trône. Mais la bonne nouvelle, c'est que la personne qui est assise sur le trône, c'est Dieu qui est un Dieu de bonté, d'amour et de miséricorde. Il règne, mais il règne avec équité, il règne avec justice et il règne, oui, bien entendu, avec beaucoup de pouvoir, beaucoup de puissance, mais il règne avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour pour ses assujettis, n'est-ce pas? Mais, encore, si vous n'aimez pas ça, allez pas au ciel. Si vous n'aimez pas ça, que quelqu'un a la charge, que quelqu'un soit en autorité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les problèmes avec l'autorité. Pourquoi? Parce qu'ils ont été abusés par l'autorité dans le passé. Hein? Parce que les hommes ont tordu l'autorité, les hommes ont abusé de leur autorité. Ça, c'est notre histoire. Mais encore, si vous n'aimez pas cet principe qu'il y a une personne qui est en charge, c'est Dieu lui-même. Laisse-moi vous dire, vous ne voulez pas aller au ciel. Mais je pense que l'autre option n'est pas mieux. Hein? Soumettez-vous à l'autorité de Jésus-Christ. Soyez soumis, pas juste dans le sens de dire je vous ai soumis, mais soyez soumis dans vos actions, dans vos pensées, dans vos attitudes. Soyez soumis à sa parole. Soyez soumis à sa volonté pour votre vie. Amen? Si vous êtes vraiment un chrétien, Jésus est votre maître. C'est pas moi qui vis, comme Paul a dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si on va vraiment se préparer pour le ciel, il faut vivre avec cette attitude. Il y a un autre verset en Apocalypse 4, 9 qui dit, « Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 veillantes se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Laisse-moi vous dire, un jour, la Bible dit clairement que tous les genoux vont se fléchir devant le Seigneur et toutes les langues vont confesser que Jésus est Seigneur. On n'aura pas besoin de tordre le bras non plus. Est-ce que vous savez que dès qu'ils voient Jésus dans sa majesté, dans sa gloire, automatiquement, tout de suite, tout le monde va être à genoux, prosterné devant lui. Pourquoi? Parce qu'il est digne de louange. On parle d'un Dieu puissant. On parle d'une autorité suprême. N'est-ce pas merveilleux? Il est au-dessus de toute autre autorité, de toute autre puissance. Jésus est sur le trône. Demandez, Jésus est sur le trône. N'est-ce pas bon de savoir que Jésus est sur le trône? Alléluia! Wow! Ça, c'est toute une autre chose. On pourrait prêcher pendant une heure juste là-dessus. Que le rejeton de David est sur le trône. C'est-à-dire qu'un homme est sur le trône de l'univers. Homme et Dieu. 100% homme, 100% Dieu. C'est-à-dire qu'un membre de la race humaine qui est maintenant glorifié est sur le trône au ciel. C'est vrai, hein? Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire qu'il peut compatir à nos faiblesses. On n'a pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir. Lui aussi, il a vécu comme un homme mortel, mais maintenant, il est Dieu, homme immortel, glorifié, magnifié. N'est-ce pas bon et merveilleux? Numéro 2, deuxième chose qu'on doit faire pour se préparer pour le paradis, adorer Dieu en esprit et en vérité. Il faut devenir les adorateurs. Il ne faut pas attendre le ciel pour devenir un adorateur, mais ici, sur la terre, on adore Dieu en esprit et en vérité. Ça devrait être un style de vie, n'est-ce pas? À tous les jours, à tout moment. Adorer, c'est pas juste chanter. Adorer, c'est d'honorer Dieu avec nos pensées, nos actions et nos paroles. Comme la parole de Dieu dit, ce peuple s'approche de moi avec leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné. On veut être approché de Dieu dans notre cœur et dans nos paroles et dans nos actions. Amen. Regardez qu'est-ce qui se passe au ciel. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ça, c'est Jésus. Il est digne. C'est lui qui a mérité. Moi, j'ai mérité l'enfer. Qu'est-ce que vous avez mérité dans votre vie? Sans Jésus, je suis fait. Et vous? Sans lui, je suis sans espoir. Mais avec lui, car il est digne, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. À celui qui est assis sur le trône, alléluia. Et à l'agneau soit la louange, l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les veillantes se prosternèrent et adorèrent. Vous savez, on ne parle pas juste une fois, mais continuellement pour éternité, on adore Dieu. Et on ne se fatigue pas non plus. On n'est pas tanné. On ne va pas regarder la montre pour dire hey, ma montre est toujours brisée, désolé. J'ai même pas de montre aujourd'hui et j'ai de la misère à voir l'horloge. Parce qu'il y a un reflet. Tout ce que je vois, c'est un fluorescent. Donc, fais-moi signe quand vous êtes tanné de m'entendre. Numéro 3. Si on veut se préparer pour le paradis, il faut développer un amour pour tous les peuples. Développer un amour pour tous les peuples. Pourquoi? Regardons qu'est-ce qui se passe au ciel. Apocalypse 5, 9, on va voir, on voit dans le futur au ciel et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. » Tout le monde dit « toute tribu. » de toute langue, on dit toute langue, et de tout peuple, et de toute nation. Laisse-moi vous le dire, au ciel, c'est multiculturel. Au ciel, on va voir toutes les nations représentées. Que c'est bon, n'est-ce pas? Laisse-moi vous dire, il n'y a pas de raciste au ciel. Amen? Il n'y a pas de raciste au ciel. Et ici sur la terre, si la volonté de Dieu va être accomplie sur la terre comme au ciel, on ne devrait pas avoir des racistes non plus. Amen? Et malheureusement, il y en a, même dans notre ville. Il y en a. Moi, je suis désolé, mais je parle avec des personnes qui viennent d'autres nations, et souvent, ils ont dit, « J'ai jamais connu le racisme avant de venir ici. » Hein? Je ne connaissais même pas c'était quoi le racisme avant d'arriver là. Et là, ils l'ont connu. On voit quelqu'un qui est différent, hein, parle d'une façon différente, qui a un regard qui est différent, et on veut s'éloigner. Vous savez, les vrais enfants de Dieu, ça devrait être l'envers. Ça devrait être vraiment que, quand on voit quelqu'un qui est d'une autre place, une autre nation, on devrait avoir une attirance. Au moins dans l'esprit, parce qu'on sait que notre mission sur la terre, c'est que l'Évangile soit prêché à toutes les nations, n'est-ce pas? À toutes les nations. Donc, moi, c'est comme ça que je pense. Je vois quelqu'un qui est d'une autre place, je dis, peut-être le Seigneur va donner une occasion, une porte ouverte, une occasion favorable pour témoigner à cette personne, pour combler, hein, et accomplir le plan de Dieu que toutes les nations soient évangélisées. Donc, vous devrez voir, vous voyez quelqu'un qui a l'air différent, pensez, hey, Seigneur, peut-être, c'est une occasion de remplir le grand mandat. C'est comme ça qu'il faut penser. Pas, qu'est-ce qu'ils font ici? Hein? Ils ne sont pas à leur place. Ça, c'est des pensées charnelles. Pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent pas chez eux? Ça, c'est charnel. En fait, je crois que Dieu veut amener les nations ici, inconverties, pour qu'on puisse toucher des personnes clés, pour les renvoyer, pour évangéliser leur propre peuple, n'est-ce pas? C'est comme ça que je pense, et c'est comme ça que je veux qu'on pense comme Église. On aime les nations. On aime les peuples différents. On aime les races différentes. Amen. On aime les cultures différentes. N'est-ce pas? Et là, on parle des cultures différentes. C'est pas juste au niveau des nations. On peut avoir, si on regarde le peuple québécois, on a beaucoup de sous-cultures dans la culture québécoise, n'est-ce pas? Hein? On a différents rangs de société. On a différents arrière-plans. Et on a besoin d'avoir du respect pour tout le monde. Vous savez, il y a des personnes qui ont des préjugés. Il y a des riches qui sont, ont des préjugés contre les pauvres. Et savez-vous, il y a des pauvres qui ont des préjugés contre les riches. Ouais. Il y a des personnes qui travaillent dans tel domaine qui ont des préjugés contre des personnes qui travaillent dans un autre domaine et vice-versa. Il y a des Amérindiens qui ont des préjugés contre ceux qui sont pas et vice-versa. Et tout cela, ça pue dans les narines de Dieu. En Jésus, il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, ni juif, ni grec, mais nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et on a besoin d'avoir cela. Donc, est-ce que vous êtes vraiment prêts? Si vous avez un problème avec le racisme, vous allez avoir un problème au ciel. Ça, c'est la vérité, hein? Comme je dis, si vous avez un problème avec l'autorité, vous allez avoir un problème au ciel. Problème avec le racisme, un problème pour vous au ciel aussi. Donc, numéro 4, soyez saints. Voulez-vous être prêts à aller au paradis? Soyez saints. Saint veut dire quoi? Mise à part. Vous vivez d'une façon qui est saine et sainte devant Dieu. Soyez saints et fidèles à Jésus. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que je vois dans les Écritures, regardez dans vos notes, c'est Apocalypse chapitre 21, verset 1, qui dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier et ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc on voit dans les Écritures que l'Église est souvent comparée à une épouse qui est fiancée à son époux. Amen. Et qu'on sait que quand quelqu'un est fiancé, quand quelqu'un va épouser une autre personne, il faut être fidèle, n'est-ce pas? Hein? Il n'y a pas un mari sur la planète qui veut partager, mais peut-être il y en a qui sont malades, mais il n'y a pas un mari sur la planète qui veut partager son épouse avec les autres. Vous êtes d'accord? Quand quelqu'un se marie, il voit la femme entrer dans l'église, c'est comme, wow, elle est belle et elle est à moi. N'est-ce pas? Savez-vous quoi? Quand Jésus nous regarde, l'église, il dit, wow, elle est belle et elle est à moi. Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux dans le sens qu'il ne veut pas nous partager avec qui que ce soit. Donc, faisons attention, même ici sur la terre, au ciel, ça va être comme ça. On va être à lui, à 100%, à Jésus. Mais, est-ce que nous sommes prêts à vivre cela? Il faut pratiquer ici sur la terre. Si vos affections sont partagées ici sur la terre avec d'autres choses, avec d'autres idoles même, on pourrait dire. C'est quoi une idole? N'importe quoi qui prend une place plus importante que la place de Dieu dans votre vie. Et si on a plus d'amour pour une chose ou une expérience qu'on a pour Dieu, c'est un idole et c'est pas bon. Il faut qu'on vive d'une façon sainte et il faut qu'on soit fidèle à Jésus pour être prêt pour le ciel. Amen. Numéro 5, pratiquer la présence de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'on sait, si on regarde la description encore du ciel, la ville céleste, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Vous savez, le paradis est le paradis, le ciel est le ciel, parce que Dieu est là, et nous sommes ensemble. Imaginez, si on arrive au ciel, la ville céleste, et Jésus dit, « Bon, je suis content que vous êtes arrivés, je m'en vais. » Ça ne serait plus le ciel.
Non.
Il faut que, ça, c'est pas le ciel à moins que Jésus soit là. Donc, on doit apprendre à pratiquer sa présence ici-bas aussi. Être conscient que Dieu est avec nous. Pas juste le dimanche matin, pas juste quand on fait notre temps de dévotion, mais tout au long de la journée. L'exemple que j'ai souvent donné d'un grand homme de Dieu qui s'appelait Smith Wigglesworth, on a un couple de ses livres en arrière ici, qui a vécu au début du 20e siècle. Il y a eu beaucoup de miracles, une trentaine de personnes ressuscitées d'entre les morts, même sous son ministère. Quelqu'un a demandé une fois, mais toi, tu as beaucoup de puissance dans ton ministère, tu dois prier beaucoup, combien d'heures par jour, combien de temps est-ce que tu pries? Quand tu pries pour combien de temps? Et sa réponse était, moi, je prie presque jamais plus que 30 minutes. Mais il dit, c'est rare que 30 minutes vont passer sans que je prie. Vous voyez? C'est pratiquer la présence de Dieu. Prier continuellement, prier sans cesse, d'être conscient que Dieu est là. Même si vous êtes à l'église, au travail, vous êtes sur le terrain de golf, ou vous faites des loisirs, Dieu est là avec vous. Hein? C'est ça, hein? Vous allez à la pêche, Dieu peut vous aider à la pêche, hein? Il a déjà aidé d'autres personnes à la pêche. Donc, pratiquer la présence de Christ. Le ciel est le ciel parce que Dieu est là, nous sommes ensemble. Mais Dieu est avec nous maintenant. En fait, Jésus a dit, « Je serai avec vous jusqu'à la fin. » Il ne nous a pas laissé les orphelins. Il nous a envoyé un autre Consolateur, l'Esprit Saint, qui est avec nous, qui est en nous. N'est-ce pas bon d'avoir l'Esprit Saint en nous? C'est merveilleux. Numéro 6, annoncer sans cesse la bonté de Dieu. Vous savez, au ciel, c'est une bonne place. La ville céleste, c'est une bonne place. Écoutons la description que nous avons ici. En Apocalypse 21, verset 4, il dit qu'il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Donc la mort, la deuil, les cris, la douleur, toutes ces choses vont disparaître. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Pas de deuil, pas de cri, or, pas de douleur. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment souffrir? Vous aimez la douleur? Non. Mais on a un monde qui souffre autour de nous. Et la bonne nouvelle, et si on continue, et il dit, écrit ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Je pense que, en quelque part, l'Église a besoin d'annoncer que Dieu est un Dieu qui est bon. Il y a trop de personnes sur la planète Terre qui sont convaincues que c'est Dieu qui fait les choses qui ne sont pas bonnes. Je suis sûr et certain qu'il y a des personnes qui ont blâmé Dieu pour la tempête Catherine qui a fait une dévastation totale dans le sud des États-Unis. Je suis sûr et certain qu'il y a des personnes qui ont dit, mais tu sais, Dieu, il faisait quelque chose là. Moi, je ne suis pas sûr de cela. Tout ce que je suis sûr, on regarde l'exemple de Job, la tornade qui a tué sa famille, est-ce que c'était Dieu qui a envoyé la tornade? Non. C'est clair. C'est Satan qui a fait cela, n'est-ce pas? Ça, c'est toute une autre histoire. Mais tout ce que je sais, Jacques nous dit que tout don excellent, toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières. Donc, si c'est bon, si c'est excellent, ça vient de Dieu. Bien sûr, il y a des moments de jugement où Dieu va permettre certaines choses à arriver, etc. Ça, c'est une autre histoire. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est quand dans le cœur de Dieu, il ne prend pas plaisir dans la souffrance ou la mort des méchants. Même la Bible dit, il ne prend pas plaisir en cela. Il y a certaines choses qu'il faut que ça arrive, et il faut que les ennemis de Dieu soient punis. À la fin du temps, on va voir cela. Mais Dieu ne va pas prendre plaisir. Il prend plaisir en nous bénissant. Il prend plaisir en nous accordant sa grâce, sa miséricorde et sa bonté. Jésus est venu nous racheter de la malédiction de la loi, qui comprend la mort spirituelle, la maladie et même la pauvreté. Vous avez juste à lire Deutéronome et lire vous-même la description de la malédiction de la loi et vous allez voir toutes ces mauvaises choses. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il a dit, je mets devant vous la malédiction et la bénédiction, la vie et la mort. Il a dit, choisissez la vie. Dieu n'a pas dit, j'espère que vous allez choisir la malédiction parce que j'ai hâte de vous donner de quoi. Non, c'est comme, je mets devant vous le choix. J'ai fait une provision totale. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans la misère. Vous n'êtes plus obligé d'avoir ces problèmes dans ce domaine. J'ai donné le choix. Choisissez la bonne chose. C'est comme nous avec nos enfants, des fois, on dit, tu as le choix. Des fois, ça arrive, je dis, bon, je fais comme ça. Hein? Tu as le choix. Hein? Tu vas obéir et être heureux et content, ou tu vas désobéir et tu vas avoir des conséquences. Choisis. Prends-moi le doigt. Qu'est-ce que tu vas choisir? Tu vas obéir, être béni, ou tu vas désobéir et avoir des conséquences? C'est pas souvent qu'ils vont... J'ai jamais vu qu'ils disent, oh oui, je veux les conséquences. Moi, je veux désobéir parce que j'ai hâte de... Non, non, non. Rendu là, et mon désir, penses-tu que moi, en tant que papa, je suis là en train de dire, oh, j'espère qu'ils vont dire, qu'ils vont désobéir quand même parce que j'ai hâte de les punir, ou j'ai hâte d'enlever les privilèges, j'ai hâte de faire ceci. Non, 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 non. C'est comme, non, ça me fait plaisir quand ils disent, je vais obéir. C'est beaucoup plus de fun. Et Dieu est bon, il veut qu'on obéisse. Amen. Donc, préparons-nous pour le ciel, c'est-à-dire, il faut annoncer que Dieu est bon. Amen. Si au ciel, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur, je crois que la volonté parfaite de Dieu pour ses enfants ici sur la terre, ce n'est pas d'avoir ces choses non plus. La dernière ennemie qui va être vaincue, c'est la mort, la Bible dit. Mais il y a d'autres choses qui sont promises dans sa parole. Il a donné les promesses, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et on a besoin de vivre dans la lumière de cela et de l'annoncer aux autres. Numéro 7, vivez comme un fils de Dieu. Regarde bien. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Comment dire, mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc on voit qu'il y a une différence entre les fils de Dieu et les fils du diable. Les fils du diable vont aller à l'enfer et Dieu ne veut pas. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Ça, c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais on voit quand même que nous qui sommes dans la famille de Dieu, nous sommes les fils de Dieu. Et ça, c'est tout un autre message, un autre enseignement. Mais quand on parle de fils, un fils, ce n'est pas juste un enfant. Quand on parle d'un fils, c'est comme la Bible nous enseigne, nous sommes nés dans la famille de Dieu, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Mais la Bible dit en Romains chapitre 8 que nous avons aussi reçu l'esprit d'adoption et nous sommes adoptés comme fils. Et tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont les fils de Dieu, pas les enfants, mais les fils de Dieu. Et là, ça parle d'un enfant qui est mature et qui vit dans la lumière de ses droits et de ses privilèges et ses responsabilités comme un fils adulte dans le royaume de Dieu. Et là, il faut que vous sachiez, comme un fils de Dieu, vous avez certains droits. Comme le fils de l'homme, de l'enfant prodigue, quand il est revenu à papa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le manteau sur son dos, il a mis les souliers, mais il lui a aussi donné l'anneau, n'est-ce pas? Qui signifie son autorité, qui peut faire les affaires au nom de son Père. Il a le pouvoir d'acheter, de vendre et de faire les affaires de son Père au nom de son Père. Et là, vous savez qu'un jour, rendu au ciel, on va revenir avec le Seigneur Jésus pour régner avec lui. Nous sommes les fils de Dieu, on va régner avec lui. Il va diviser les villes, ils vont désigner, certaines villes vont être sous votre autorité. Ça, c'est pas moi qui l'invente. On parle de la réalité. Mais si ça va être vrai au ciel, ici sur la terre, que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel, on devrait apprendre à vivre comme des fils dans la lumière de notre responsabilité et notre autorité en Jésus-Christ. Amen? Soyons prêts. Êtes-vous prêts pour le paradis? Numéro 8, amenez la vie et la guérison à votre entourage. Si on regarde dans notre aperçu du ciel, ça serait de fun d'avoir sur l'écran en direct du ciel pour voir le fleuve d'eau vive, n'est-ce pas? Ça doit être joli. Moi, j'aime les rivières. Hein? J'aime les rivières. Il y a de la vie dans les rivières. Il y a de la puissance dans les rivières. Et c'est rafraîchissant, les rivières, n'est-ce pas? Mais regarde bien. Verset 1. D'Apocalypse 22 qui dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône. » Le fleuve commence au trône. Dieu règne, Dieu siège, son autorité est établie là, et c'est à partir de là, du trône de Dieu, que le fleuve d'eau vive sort. Il y a de la vie qui sort de la présence de Dieu. Et ce n'est pas juste un petit peu. Ce n'est pas un ruisseau, c'est un fleuve. Vous pensez que le Saint-Laurent, c'est quelque chose? Imaginez le fleuve. Je ne pense pas que c'est un petit fleuve non plus. Imaginez la grandeur du ciel, le fleuve d'eau vive. Ça doit être quelque chose. Hein? Mais regarde bien dans ce verset. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Quelque chose, n'est-ce pas? Donc, au ciel, il y a un trône. Et à partir du trône, il y a un fleuve d'eau vive. Et à chaque bord du fleuve, un arbre de vie dont les feuilles servent pour la guérison des nations. Donc, on voit qu'au ciel, il y a de la vie, il y a de la guérison, n'est-ce pas? Ça, c'est Et quand on prie, Seigneur, que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel, qu'est-ce qu'on devrait apporter à notre entourage? C'est la vie et la guérison. La vie et la guérison. Psaume 46, je crois que c'est psaume 46, on n'a pas le temps d'y aller, mais dans le psaume 46, verset 4, il dit qu'il y a un fleuve dont ses courants réjouissent la cité de Dieu. C'est-à-dire que c'est un fleuve d'eau vive, c'est un fleuve de joie. On devrait dégager la joie. Partout qu'on aille, la joie devrait dégager, n'est-ce pas? Et c'est pas justement ça, mais regarde bien Ézéchiel 47 dans vos notes. Ça parle de ce fleuve qui parle du trône de Dieu. Et tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Savez-vous que, qu'est-ce que Jésus a dit? C'est lui qui croit en moi. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça, c'est pas rendu au ciel, ça, c'est ici, sur la terre. Et il parlait de l'Esprit Saint qui n'était pas encore donné. C'est-à-dire que quand on est ici sur la terre, un enfant de Dieu devrait être tellement rempli de l'Esprit Saint que ce fleuve qui sort du trône de Dieu coule à travers nous et chaque place où le torrent arrive, les gens sont délivrés et guéris. Amen. C'est ça, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. On peut dire partout où parviendra l'Église. Parce que l'Église amène le torrent avec eux. N'est-ce pas bon? Wow! Là, on a vu une inondation en Louisiane et ça a dévasté les personnes. Qu'est-ce que Dieu veut faire? C'est d'inonder la terre avec ses eaux vives. Inonder les personnes. Ceux qui sont morts spirituellement à chaque place où le fleuve d'eau vive coule de ton sein et les touche, ils vont être nés de nouveau, ils vont vivre. Les personnes qui sont dans les troubles, dans les problèmes, ils vont être délivrés. Amen. Numéro 9. Pour se préparer pour le paradis, marcher dans la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. Je lisais la description du ciel et la ville céleste et je médite là-dessus. Il y a un passage ici qui est bien intéressant qu'on va lire tantôt. Et le principe d'Éphésiens 3:19 qui est dans vos notes s'applique. Éphésiens 3:19 dit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Comment on dit la plénitude de Dieu? La volonté de Dieu pour vous, pour moi, pour nous, c'est d'être rempli de la plénitude de Dieu. Alléluia. Ce verset en Éphésiens parle de connaître l'amour de Christ. La hauteur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Okay? Quatre dimensions. J'ai fait une série une fois, l'amour sur quatre dimensions. L'amour de Dieu est long, l'amour de Dieu est profond, l'amour de Dieu est sans fin, l'amour de Dieu est sans condition. Quatre dimension de son amour. C'est complet. Il y a quelque chose au ciel qu'on voit dans un passage qu'on va lire dans une minute. On voit la plénitude de Dieu. Vous savez, il y a certains chiffres dans la parole qui ont une signification. Hein? On parle du chiffre 3, on parle souvent de la divinité, la trinité, etc. On voit souvent les personnes qui, les érudits disent que le numéro 6 représente l'humanité. Le numéro 7 représente souvent la perfection. Mais 12, ça représente la plénitude. Jésus a choisi combien de disciples? 12. Il y avait combien de tribus en Israël? 12. Quand ils ont nourri les multitudes, ils ont ramassé combien de paniers des restants? 12. Plénitude. Plénitude. Regarde ceci, en Apocalypse. Intéressant. Verset 10 de Apocalypse 21. « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. » Les montagnes, souvent dans la parole, représentent les royaumes aussi. « Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. » Ayant la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait combien de portes? 12 portes.
Et sur les portes, 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'orient, 3 portes, au nord, 3 portes et au midi, 3 portes. Et à l'occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, combien de noms? 12 noms des 12 apôtres de la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesurera la ville avec les roseaux et trouva 12 000 stades. 12 000! C'est intéressant, n'est-ce pas? La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Intéressant, on prend ça avec Éphésiens qui dit qu'il faut connaître la largeur, la hauteur, la longueur et de connaître la plénitude de Dieu dans son amour. On sait que l'amour de Dieu est complet. Il ne manque rien. C'est la plénitude d'amour. Amen. La ville, c'est une plénitude aussi. Regarde bien, verset 18. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. La première fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, c'est difficile, hein? L'onzième de hyacinthe, le douzième de quoi? Le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 paires. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du vin transparent. On voit la plénitude au ciel. Tout est plein. Il n'y a rien qui manque. Plénitude. Plénitude et abondance. 12 000, 12 portes, 12 fondements, 12 noms, 12 apôtres, 12, complet, complet, complet. On ne manque de rien. Et on devrait avoir cette attitude sur la terre. On sert un Dieu de plénitude. Et Seigneur, j'ai hâte d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Aide-moi à connaître la plénitude de ton amour et partager la plénitude de ton amour avec les autres. On veut prêcher. Il y a même une dénomination, qui s'appelle le Four Square. Et c'est quand même une bonne dénomination, Et il se base sur cela, La ville céleste qui est carré. Mais eux autres, ils ont dit, bon, il faut qu'on prêche la plénitude de l'Évangile. Que Jésus sauve, oui, mais ce n'est pas juste qu'il sauve de nos péchés, mais il guérit, il nous remplit du Saint-Esprit, Jésus revient, il y a la plénitude. Il ne faut pas laisser des choses que Dieu veut qu'on aille à côté. Il faut qu'on ait tout ce qu'il nous a donné, il faut tout recevoir. Amen? La plénitude. Tout le monde dit la plénitude. Et numéro 10, pour terminer. Parce que j'ai vraiment aucune idée quelle heure il est. Marcher dans la lumière de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis qu'il est important de marcher dans la lumière de Dieu comme citoyen du ciel? Tout le monde dit, je suis citoyen du ciel. Ma cité à moi est dans les cieux. Jésus est sur le trône. Et je suis soumise à son autorité. Amen. Regarde bien. La ville n'a pas besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. Et les gens de toute évidence ne seront pas fatigués non plus. Probablement même pas besoin de dormir. Probablement. Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas dogmatique là-dessus parce que ce n'est pas marqué clairement. On sait que la Bible dit que Dieu ne dort pas. Donc, j'imagine que moi non plus, je ne vais pas avoir besoin de dormir. Mais ici, sur la terre, par exemple, c'est une autre histoire. Même si je ne dors pas beaucoup, j'ai besoin de dormir. Il n'y aura plus anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. N'est-ce pas bon? Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Est-ce que vous avez hâte de voir sa face? Et son nom sera sur leur front. il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de la lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Marcher dans la lumière. Si c'est vrai qu'au ciel, c'est Jésus qui est la lumière, laissez-moi vous dire qu'ici sur la terre, on a besoin d'apprendre à marcher dans la lumière. J'ai mis dans vos notes, voir 1 Jean chapitre 1. Je vais le lire pour vous. 1 Jean 1, 7 dit, mais on va juste reculer à verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Demandez, Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. C'est pas un bon événement. Dieu est lumière. Et si au ciel, je n'aurais même pas besoin d'une lampe, qu'est-ce que ça prouve? Une chose, bien importante, il faut que vous sachiez, c'est que vous n'aurez pas de facture d'Hydro-Québec au ciel. Pas besoin de lumière. Pas besoin de lampe. Jésus éclaire la ville. Wow! Pas besoin de ça. Mais si c'est vrai qu'au ciel, Dieu est lumière, qu'est-ce que Jésus a dit? Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes un reflet de sa lumière. Sa lumière est en nous. Et on peut marcher dans la lumière comme il est dans la lumière. Et le sang de Jésus nous purifie. Le monde est éclairé. Le monde est attiré. Le monde va venir à Jésus. Pourquoi? Parce qu'en tant que citoyen du ciel, je sais, je ne suis pas un gars qui aime les ténèbres. J'aime la lumière. Les ténèbres, ce n'est pas ma place. Non, non, non. C'est là, ma place. Hein, je vois Alain qui est ici, et il vit en Haïti. Je parlais avec lui la semaine passée. Comme ils disent, vous savez qu'il y a des choses qui disent que dans l'esprit, c'est souvent la nuit. Beaucoup de vaudou, beaucoup de spiritisme, et c'est la nuit que ces choses se font. C'est la nuit. Souvent, c'est comme ça. Hein? Les ténèbres. Mais nous sommes la lumière. Et nous pouvons laisser luire notre lumière devant les hommes. Ça va être tellement évident qu'ils vont nous demander pourquoi? Ils vont vouloir connaître ce Dieu d'amour, ce Dieu de lumière. Nous sommes citoyens du ciel. Alléluia. On va se lever debout. Et on va prier. Et dans une minute, on va recevoir, juste pour terminer cette série, on va recevoir le repas du Seigneur. Je crois que j'ai vraiment aucune idée quelle heure il est. Est-ce qu'il est midi? Ah, midi moins quart. C'est correct. Hein? On va juste pas regarder l'heure. Merci, Père Céleste. Allez, Jean-Charles, est-ce que tu peux venir au piano? Je sais qu'on a regardé beaucoup, beaucoup de choses ce matin. Le message, le style peut-être un peu différent même. Mais on ne voulait pas juste regarder cela pour regarder, mais on veut que ça change notre vie. Je suis aujourd'hui même un citoyen du ciel. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. J'ai un passeport céleste dans l'esprit. J'ai le droit d'entrer. Personne ne peut me refuser l'entrée. Amen. Personne ne peut me renvoyer non plus. J'ai le droit d'aller au ciel parce que Jésus l'a acheté pour moi. Amen. Qu'est-ce que j'ai mérité? C'était l'enfer. Mais Dieu m'a donné sa vie. Dieu m'a donné son pardon. Dieu m'a donné un héritage avec tous les saints. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Soumettez-vous à l'autorité de Christ, on va le faire. Adorez Dieu en esprit et en vérité. Développez un amour pour tous les peuples. Soyez saints et fidèles à Jésus. Pratiquez la présence de Christ. Annoncez sans cesse la bonté de Dieu. Vivez comme un fils de Dieu ici sur la terre. Amenez la vie et la guérison à votre entourage. Marchez dans la plénitude de Dieu et marchez dans sa lumière. Comme un citoyen du ciel, c'est comme ça qu'on est destiné à vivre. Imaginez l'impact que ça va faire sur la ville de Drummondville, la province du Québec, la francophonie et au-delà. Ils vont dire, comme ils ont dit des premiers apôtres, ceux qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Ceux qui ont bouleversé le monde sont arrivés là. Merci, Père. Priez cette prière avec moi, Père Céleste. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton plan. Merci que je suis citoyen du ciel. Aide-moi à vivre comme un citoyen du ciel, ici sur la terre. Que ta volonté soit faite dans ma vie, aujourd'hui même, pendant mon séjour terrestre, comme au ciel, au nom de Jésus. Avec tous les yeux fermés, à tous les dimanches matin, on aime donner une occasion pour ceux et celles qui n'ont pas accepté Jésus de le faire. Peut-être vous êtes ici ce matin, vous n'êtes pas vraiment capable de prier la prière qu'on vient de prier avec assurance. Vous n'êtes pas sûr et certain d'avoir reçu la vie éternelle.